Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes au studio avec Alain Ball. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alain Ball, vous êtes professeur de technologie.
Oui.
Dans quel établissement ?
Je travaille à Valence au collège Paul Valéry.
Vous êtes actuellement présent au restaurant Un air de famille pour une exposition qui se déroulera jusqu'à
la mi-janvier à peu près, oui.
Voilà, une exposition dédiée au temps, Ne t'en va pas, s'appelle l'exposition. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans cette proposition ?
Alors c'est une exposition d'horloge que je fabrique depuis pas mal de temps maintenant. C'est la troisième exposition d'horloge que je monte au restaurant Un air de famille. Voilà, j'utilise des objets détournés principalement pour fabriquer des horloges, des tableaux, des plateaux. Et puis certaines que je fabrique entièrement moi-même, certaines sont découpées au laser. Je travaille au Fab Lab de Cray aussi pour ce genre de travaux. Et puis certaines maintenant que je fabrique en verre entièrement, puisque je travaille aussi à l'atelier Les Arts Verts, là, qui s'est monté à Die récemment. Et voilà, ça me permet aussi d'explorer cette technologie du verre, des vitraux et aussi la technique du fusing.
La passion de l'horloge fait partie de votre formation professionnelle et de votre savoir-faire en technologie ?
Oui, c'est vrai que voilà, en technologie, on est appelé à fabriquer des petits objets. Donc cette passion pour les horloges a démarré un petit peu par hasard avec des élèves, puisque avec des élèves de 6e, on fabriquait des petites horloges. Et à l'époque, au programme, on avait un travail à faire sur le design. Donc j'ai voulu montrer aux élèves qu'avec peu de moyens et un petit peu d'idées, on pouvait faire des choses drôles, faire des petites horloges rigolotes, on va dire, avec peu de moyens. Donc j'ai fait une petite expo avec les élèves au collège, dans le couloir du collège, et puis de fil en aiguille, sans jeu de mots, l'exposition s'est transformée en passion, et voilà, j'ai continué à fabriquer des horloges de mon côté, et voilà, aujourd'hui, c'est à peu près une centaine d'horloges qui sont exposées au restaurant.
Avec des thématiques et puis des aspects très différents les unes des autres. On peut y déceler quelles influences dans toute cette collection ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment d'influence, c'est un petit peu au gré de mes envies et surtout de mes rencontres dans les magasins avec certains supports qui m'inspirent. Il y a sûrement des inspirations pop art, etc. Mais pas vraiment de fil conducteur, c'est vraiment en fonction de ce que je trouve, notamment dans le commerce, pour créer un support de départ.
Et ces horloges qui sont exposées, sont-elles en vente là où elles sont exposées ?
Oui, c'est une expo-vente. Hein. On peut acheter ces horloges aux heures d'ouverture du restaurant, puisque voilà, il n'y a pas de permanence à l'exposition. Mais tous les jours, aux heures des repas, on peut venir, même sans consommer, on peut venir voir l'exposition. Elles sont en vente, avec une particularité cette année, parce que je vais reverser tous les bénéfices de cette vente à la Ligue contre le cancer de la Drôme.
Quand on arrive dans cette salle, je suppose que toutes les horloges sont à la même heure.
J'ai trouvé une solution pour un petit peu arrêter le temps, j'ai pas mis de piles. mais je livre les piles quand on achète une horloge.
Moi je m'attendais à... C'est vrai que c'était silencieux, j'aurais pu m'attendre à faire entendre des tic-tac. Cette inspiration d'horloge, est-ce que vous parlez de pop art, mais est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont vraiment influencé et inspiré ?
Non, pas spécialement, non, vraiment. C'est parti comme ça et... c'est vraiment au gré de mes envies et de mes inspirations personnelles que, voilà, que je crée une horloge. Voilà, il y a des périodes où je vais en faire 3 ou 4 par semaine et puis d'autres périodes où je laisse tomber, voilà, je passe à autre chose.
Pour fabriquer ces horloges, vous avez des capacités à traiter divers matériaux, hein, que ce soit le métal, le verre, le bois aussi.
Oui, bah, en bon prof de techno, j'ai quand même un atelier de bricolage à la maison, voilà. Je suis assez bien équipé en termes de machines, donc ça me permet de pouvoir percer, découper voilà, des matières plastiques, le bois, et puis réaliser ces horloges sans trop de problèmes. De toute façon, je fabrique aussi ce que je suis capable de faire dans les limites de mes compétences d'une part et de mes possibilités techniques en termes d'outillage.
Là, on pourrait dire que vous êtes plus dans un traitement de design que de mécanique, de mécanisme. Vous ne fabriquez pas vous-même le mécanisme des horloges aussi ?
Non, pas du tout. Non, moi, c'est juste un travail d'assemblage, on va dire. Hein. Avoir l'idée d'une part, et puis après, travail d'assemblage avec des mécanismes que je trouve dans le commerce. Et puis, voilà, le travail vraiment sur les mécanismes, là, c'est un travail spécifique de spécialiste, hein, d'horloger. Donc là, non, c'est hors compétence pour moi. Et voilà, avec les petits mécanismes, déjà, on peut faire des choses assez sympathiques.
Est-ce que c'est le titre qui influe le fait que les horloges soient arrêtées, puisque ça s'appelle « Ne t'en va pas » c'est voulu, donc ?
Oui, c'est voulu. C'est un petit jeu de mots pour cette exposition, par rapport aussi aux épreuves que j'ai traversées récemment, voilà, et qui m'ont mis un petit peu à l'arrêt professionnellement et physiquement aussi. Donc il fallait trouver quelque chose aussi pour continuer de vivre, tout simplement. Et voilà, ce bricolage, entre guillemets, ce travail des mains et du cerveau m'ont permis aussi de surmonter les épreuves. Et voilà, dans un processus de résilience, j'ai continué à y croire, à aller de l'avant, à travailler, bricoler, même si voilà, il y a certaines parties de mon corps qui étaient un petit peu à l'arrêt. D'autres ont continué de fonctionner. Et ce travail sur les horloges a été un peu salutaire pour moi.
Alors, il y en a pour tous les goûts, hein, on peut le dire. Et il y en a aussi pour tous les prix ?
Oui, tout à fait. Oui, bah, les prix sont relativement bas. Hein, voilà, les horloges, les premiers prix démarrent à 15 euros, 12 euros même. Voilà, certaines petites horloges très simples sur des petits plateaux du commerce. Et puis, voilà, après, avec des horloges un peu plus sophistiquées, jusqu'à une centaine d'euros.
Quelle est cette passion pour vous avec l'horlogerie ? Est-ce que ça aurait pu être aussi un autre objet ?
Oui, c'est vrai que l'horlogerie m'intéresse beaucoup. J'ai été, avant d'être prof de technologie, j'étais prof de microtechnique. Je travaillais avec des élèves qui préparaient donc à l'époque un BEP de microtechnique qui les amenait plus tard aux travaux d'horlogerie et tout ce qui est mécanique de précision. Donc j'étais déjà un petit peu, avant d'être prof de techno, en rapport avec ce milieu de l'horlogerie.
Je revenais un peu là-dessus, sur la technologie, c'est avant tout le dessin, non ?
Oui, tout à fait, oui. Moi, c'est ma formation de départ, hein. Je suis dessinateur industriel au départ, donc voilà, avant d'être un prof de techno, et voilà, la passion du dessin, et après de la réalisation aussi, m'a toujours passionné, oui.
Et d'ailleurs, au niveau de l'expression artistique, est-ce que vous pratiquez le dessin tel que vous l'utilisez professionnellement et le détournez aussi dans un aspect artistique ?
Non, pas spécialement. J'ai encore pas exploré cette voie du dessin, peut-être de la peinture. Bon, pour plus tard, peut-être. Voilà, pour le moment, j'aime beaucoup cette dimension, cet aspect de fabrication, de réalisation, de concrétiser voilà, des idées d'une part, des idées qui peuvent passer par le papier, donc par le dessin. Voilà, mais pour le moment, c'est le travail des mains, le travail de conception, de réalisation, pardon, puisque la conception, c'est le dessin. Le travail de réalisation qui me plaît, qui me passionne et dans lequel je m'exprime actuellement.
Je voulais venir au dessin et à son enseignement, le dessin technique. Moi, je l'ai pratiqué quand j'ai obtenu mon CAP de maçonnerie. Il y a des règles de dessin. Est-ce qu'aujourd'hui, on utilise toujours le papier et le rotring ou le crayon ? Ou alors maintenant, tout est informatisé ?
Ah oui, c'est là, cette fois, le papier, le crayon, le rotring ont disparu. Hein, peut-être pas à 100%, mais pratiquement aujourd'hui, le dessin est assisté par ordinateur. Hein, donc aujourd'hui, on parle de CAO, hein, donc conception assistée par ordinateur, DAO hein, aussi, dessin assisté par ordinateur. Voilà, et aujourd'hui, on passe directement du dessin à la machine, hein, donc en CFAO, conception, fabrication assistée par ordinateur, et la dimension manuelle du dessin a pratiquement complètement disparu, quoi.
Est-ce que l'informatique amène un domaine empirique dans la création, dans la créativité, le fait d'être sublimé par des possibilités en informatique qui étaient beaucoup plus difficiles à avoir en manuel?
Oui, tout à fait. Oui, l'ordinateur, l'outil informatique permet des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, notamment le dessin en trois dimensions. Hein. Donc ça, quand on dessinait sur un papier, on était obligatoirement en deux dimensions, le dessin 2D. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ces outils informatiques de 3D, ça ouvre des possibilités très intéressantes de conception. Moi, depuis quelques temps, je me suis mis à l'impression 3D. Donc j'ai acheté une imprimante 3D et je réalise aussi... voilà, des objets en impression 3D, et grâce à cet outil informatique, ça ouvre d'énormes possibilités, oui.
Pour l'instant, vous travaillez à la souris et au clavier.
Hein. Tout à fait, voilà.
Voilà, mais on aborde une époque où l'objet aussi sera conçu par le mouvement de nos bras.
Tout à fait, oui, bien sûr que avec l'outil informatique, aujourd'hui, on va vers des choses complètement révolutionnaires en termes de conception, bien sûr, oui.
Est-ce que vous pensez aussi peut-être modifier l'aspect de l'horloge, la notion de l'horloge telle qu'elle est aujourd'hui?
Ah, ça, c'est une vaste question. Ça voudrait dire modifier le temps, on en rêve tous. C'est vrai que moi, mes supports, ils évoluent un petit peu aujourd'hui, voilà, sur mes horloges. Un petit peu comme la montre, aujourd'hui on n'achète plus vraiment une montre pour lire l'heure, parce que l'heure on l'a à tous les coins de rue, on l'a sur l'ordinateur, on l'a sur le portable. Voilà, la montre est plus un bijou qu'un objet technique pour indiquer l'heure, et je crois qu'il en va de même pour les horloges. Aujourd'hui on achète une horloge comme on achète un tableau pour décorer une pièce, et voilà, on va acheter une horloge en harmonie avec la décoration. Donc bien évidemment nos supports techniques d'horloge évoluent aussi dans ce sens-là. Et il est vrai que sur certaines horloges, il est compliqué de lire l'heure, mais bon, puisque ce n'est plus la finalité première, voilà, c'est pas grave, au contraire même.
Et vous récupérez aussi d'anciennes horloges ou d'horloges moins, disons, plutôt rétro ou vintage pour les détourner?
Non, je récupère pas. Je travaille principalement sur des matériaux neufs, hein, des tableaux que j'achète et de tout, avec des mécanismes neufs aussi que j'achète dans le commerce. Non, il y a des inspirations vintage, bien évidemment, puisqu'on trouve voilà, des plaques émaillées ou des choses comme ça que j'utilise comme support, évidemment, qui ont ce côté vintage. Non, je ne fais pas de récupération. Bon, après, ça oblige à rentrer dans le domaine de l'horlogerie, parce que voilà, une vieille horloge, voilà un mécanisme du commerce qu'on change. Ça m'arrive fréquemment, par contre, de réparer des horloges voilà, que des personnes m'apportent pour... voilà, principalement, souvent, c'est un changement de mécanisme, d'aiguille, et puis voilà, une petite remise en état de l'horloge.
Vous ne fabriquez pas vous-même les roues dentées, par exemple?
Non, là, c'est... Voilà, là,
c'est l'orfèvrerie.
Voilà, c'est l'horlogerie, là, c'est un tout autre domaine, et ça demande de l'outillage d'une part et des compétences autres.
Vous en connaissez vous-même des horlogers actuellement?
Non, j'ai pas, je travaille pas avec des, non, j'ai pas de connaissances dans ce milieu-là, mais j'aimerais beaucoup. Oui,
bah, est-ce que c'est encore un métier qui existe?
Oui, c'est encore un métier qui existe, puisque y a un regain d'attention pour toutes ces vieilles horloges, notamment ces vieilles horloges comtoises, etc., qu'aujourd'hui on réhabilite ou qu'on remet au goût du jour. J'ai vu récemment une émission d'ailleurs à la télévision où des fabricants en Franche-Comté justement avaient recréer de ces grandes horloges comtoises, mais avec des designs très très contemporains. Et voilà, c'est un métier qui a encore de l'avenir.
Avec son balancier aussi, toujours ?
Oui, oui, toujours avec son balancier traditionnel qui est devenu un vrai élément de décoration. On a des horloges comtoises maintenant en plexiglas transparent, voilà, qui permet de voir les mécanismes. Aujourd'hui, on clash plus les mécanismes, comme on peut le voir sur certaines montres d'ailleurs. Voilà, c'est un vrai élément de décoration. Et voilà, j'ai vraiment vu des choses merveilleuses dans ces nouvelles horloges design et actuelles.
Est-ce que vous êtes attaqué à un thème ou une technique sur laquelle vous avez buté ou qu'il y a, ou je dirais, vous avez atteint une limite dans une conception ?
Non, pas particulièrement. Bah, quand je bute, je m'arrête. Voilà, je passe à autre chose. Non, j'ai exploré pas mal de techniques. J'ai notamment une technique qui permet pas mal de choses. C'est la découpe laser. Hein. Donc, je travaille à Cray, au Fab Lab, je crois l'avoir dit déjà. Voilà, donc il y a deux machines à découpe laser. Et là, grâce à ces machines, bah, voilà, on va pouvoir découper du bois, du plexiglas et même du cuir et n'importe quel autre matériau. Pas trop épais, et donc ça ouvre des possibilités de création et de créativité.
Est-ce que vous abordez ce type de travail avec vos élèves, par exemple, dans vos ateliers ? Ou alors, est-ce qu'il y a des programmes définis qui déterminent l'objet à fabriquer dans le cursus ?
Voilà, non, bah, le programme de technologie a beaucoup évolué. Hein. On est passé vraiment à un enseignement général à 100%. Il y a de moins en moins de fabrication, de moins en moins de machines dans les ateliers de technologie. Hein. Ce sont devenus des salles de classe traditionnelles, presque, avec bon, encore la présence de l'outil informatique, mais voilà, une orientation plus du côté de la programmation, de la robotique, mais beaucoup moins du côté de fabrication, quoi. Voilà, donc c'est un thème qu'on a laissé un petit peu tomber dans nos ateliers, un petit peu pour les raisons de sécurité aussi, puisque bon, on avait des machines, des perceuses, des choses comme ça, des plieuses, qui pouvaient présenter certains dangers, bon, très limités, somme toute, mais bon, voilà.
Vous voulez dire que l'évolution et la notion de sécurité a fait disparaître ces machines dans ces établissements ?
Bon, c'est pas le seul élément, mais ça fait partie des éléments qui ont vu la disparition des machines dans les ateliers de technologie. Ce qui est normal aussi, parce qu'à une époque, voilà, on travaillait sur des machines à bois, des tours, des fraiseuses, peut-être pas toujours dans des conditions de sécurité optimales. Voilà, mais enfin, bon, avec un minimum, justement, de précautions, on arrivait quand même à faire travailler les élèves sans qu'il y ait d'accident. Moi, voilà, en 35 ans de carrière, j'ai jamais eu d'accident avec mes élèves, donc c'est quand même possible. Voilà, bah, c'était une évolution, je sais pas, voilà, si c'est bien, pas bien, ça n'empêche que les élèves, voilà, travaillent de moins en moins avec leurs mains, quoi.
Mais alors, il existe en parallèle donc une autre filière où là, on passe à la fabrication, 100%.
Voilà, oui, bah, il faut sortir du collège. Hein. C'est une fois arrivé en lycée professionnel que les élèves vont pouvoir être confrontés à la matière, pour ainsi dire. Voilà, mais c'est vrai qu'au collège, de moins en moins maintenant, voilà, on est vraiment collège, établissement d'enseignement général. Et la technologie est rentrée dans cette mouvance où... voilà, l'enseignement c'est de plus en plus théorisé, on va dire, et moins en moins pratique, quoi.
On va revenir à l'exposition. Vous disiez environ qu'on pouvait y voir une centaine d'horloges. Ces objets, vous les concevez en tant qu'objets utiles ou alors décoratifs ou artistiques ?
Oh, à 100% décoratif pour moi, voilà, j'ai pas la prétention d'être un artiste. Encore faudrait-il revoir la définition du mot artiste, mais voilà, non, je suis un modeste artisan qui aime bricoler. Et voilà, je fabrique ces horloges en toute modestie, en essayant de créer des objets drôles. Voilà, il y a une part, c'est ludique aussi, hein, donc. Voilà, non, je... Voilà, c'est des objets décoratifs, principalement.
Et pour les prochains temps, vous montez d'autres choses ? Est-ce que vous travaillez sur d'autres types d'objets ?
Oui, tout à fait, ouais, j'ai une autre passion qui n'a rien à voir avec les horloges, c'est le jeu d'échecs. Au départ, je suis collectionneur de jeux d'échecs. Alors, j'ai pas l'âme d'un collectionneur, mais c'est une collection qui est née au gré de mes voyages. J'ai eu la chance, de par mon travail et puis aussi personnellement, de beaucoup voyager, donc en Afrique, dans le Pacifique Sud, etc. Et puis un petit peu dans le monde entier. Et voilà, j'ai commencé à ramener des jeux d'échecs des pays que je visitais parce que je trouvais qu'ils étaient représentatifs des pays de par leur forme, de par leur matière. J'ai ramené des jeux d'échecs en onyx avec des formes maya, toltèque, du Mexique par exemple. En Afrique, ils mettent des crocodiles à la place des cavaliers ou des lamas en Bolivie ou au Pérou. Voilà, donc je trouvais à chaque fois que le jeu d'échecs avait identifié un petit peu le pays et ces jeux d'échecs ramenaient de tous ces voyages sont transformés en collection. Et aujourd'hui, justement, avec ce que je disais tout à l'heure, l'impression 3D, ben, j'ai toujours aussi fabriqué des jeux d'échecs de mon côté en détournant des objets. Et puis aussi, maintenant, avec l'impression 3D, je conçois. Alors là, il y a un vrai travail de conception, de design sur les jeux. Et puis, avec l'impression 3D, la possibilité de voir très rapidement ce que ça donne, puisque je fabrique mes jeux d'échecs. Pour le moment, il n'y a encore pas de projet de vente. Mais enfin, j'ai quand même fait déjà deux expositions à Tournon, là, dans le cadre du Carré des Créateurs, lors des Journées du Patrimoine, où j'ai exposé quelques jeux d'échecs aussi.
Vous jouez vous-même aux jeux d'échecs, je suppose ?
Oui, je joue un petit peu, mais c'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Il faut trouver des partenaires aussi. Je suis plus passionné par le support, presque, que par le jeu, même si j'y joue un petit peu, mais c'est le... C'est dur à expliquer, mais on a toujours été fasciné par ce support, ces jeux d'échecs que l'on trouve dans le monde entier. Et un thème où tous les artistes pratiquement se sont attelés un petit peu à ce thème, puisqu'on a des gens comme Stark et compagnie ont tous réalisé des jeux d'échecs d'un design. Et là, on a des très 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 belles réalisations avec des jeux d'échecs de plusieurs millions d'euros ou à Baccarat, des jeux en verre. Magnifique.
Et vous-même, donc, vous en fabriquez et vous utilisez votre imprimante 3D pour ressortir ces objets.
Oui, certains ou d'autres que je fabrique avec des objets détournés.
Et c'est quel type de matériaux vous utilisez dans votre imprimante 3D ?
Alors, en impression 3D, c'est une matière plastique, mais moi, j'utilise une matière plastique écologique qui est du PLA, c'est un amidon de maïs. Donc j'utilise principalement cette matière, mais on utilise aussi, pour des raisons plus mécaniques de résistance, de l'ABS, donc qui est une matière plastique issue de la pétrochimie. Mais moi, je n'ai pas de problème pour les jeux d'échecs de résistance mécanique. Donc j'utilise le PLA, ça s'appelle. Voilà. C'est un plastique donc, à base d'amidon de maïs.
Donc vous parliez tout à l'heure dans la fabrication de jeux d'échecs. Et puis vous vous êtes un peu renseigné un peu sur l'histoire de l'échec.
Ah oui, ça c'est devenu une vraie passion, oui, je me suis un petit peu renseigné, c'est une histoire qui est passionnante et intéressante, depuis les origines du jeu, on date à peu près du 5e siècle, 4e, 5e siècle, voilà, en Perse, et puis après ce jeu, les règles ont évolué au cours du temps et aussi au cours de ses voyages à travers l'Europe notamment, et en fonction des différentes... croisades notamment et choses comme ça, le jeu a traversé les pays et les règles ont évolué, donc il y a vraiment une histoire du jeu d'échecs qui est passionnante. Oui.
Justement, ces pièces qui représentent en Occident le jeu d'échecs, vous les trouviez donc à travers la planète, dans différents aspects par rapport à leur culture de certains pays. Qu'est-ce que je voulais savoir ? Est-ce qu'il y a des jeux d'échecs qui diffèrent vraiment de ceux de l'Occident ?
Oui, c'est vrai. Oui, il y a vraiment des jeux d'échecs très très variés en fonction des pays dans lesquels on se rend. Après, savoir s'ils ont une valeur historique ou si c'est les artistes qui ont un petit peu interprété les pièces à leur façon, ça je pourrais pas le dire, mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que de retrouver des, bah, la culture du pays à travers le jeu d'échecs. Voilà, en Russie, on retrouve les petites poupées russes sur les plateaux, voilà, la tour de Pise en Italie, on retrouve puis les matériaux aussi, quoi. Hein, donc les matériaux utilisés, les pierres notamment, qui en général que l'on retrouve dans les constructions du pays.
Je comparais par rapport au jeu d'échecs chinois, hein, où les pièces sont différentes et le nombre aussi varie. Hein. Je voulais savoir si il y avait des variantes dans le jeu d'échecs occidental.
Ben, aujourd'hui,
en fonction des cultures ou de certains pays avec d'autres règles que la nôtre.
Ça, je pourrais pas le dire exactement. C'est vrai qu'en France, on a stabilisé des règles. Voilà, on a une fédération française des échecs. On a des tournois, donc il y a des règles maintenant qui sont bien calées, on va dire, très strictes par rapport évidemment à ces compétitions. Mais je suppose qu'il doit y avoir quelques variantes dans certains pays, et notamment, c'est vrai, dans les pays asiatiques. Je pense que voilà, le jeu d'échecs n'a pas tout à fait les mêmes règles, on va dire, qu'en Occident. Ouais.
Et vous avez concouru, par exemple, pour un jeu d'échecs aux normes officielles ?
Non, pas du tout. Non. La forme officielle, donc la forme Stanton, elle existe. C'est la forme qui est reconnue pour les compétitions. Il y a des normes très strictes quant aux dimensions des pièces par rapport au plateau, etc. Là, cet aspect-là, moi, ne m'intéresse pas du tout. Voilà, moi, c'est plus de créer des jeux d'échecs, justement, décoratifs aussi. Certains jeux avec lesquels il est très compliqué de jouer parce que c'est difficile de reconnaître les différentes pièces. Mais voilà, moi, je suis rentré dans un autre domaine du jeu d'échecs aussi, décoratif, un petit peu dans le même esprit que les horloges.
Et puis, on va peut-être illustrer cette émission avec un peu de musique. Est-ce que vous auriez un morceau ou un air à nous proposer ?
Comme ça, j'avais pas préparé, c'est compliqué. peut-être Lino Ferret avec le temps.
Cette exposition donc a lieu jusqu'à la mi-janvier, ouais. Un air de famille.
Oui, elle va durer jusqu'à la mi-janvier, peut-être jusqu'à la fin de janvier, en fonction des autres expositions qui arriveront derrière. Donc pendant toutes les fêtes, vous pouvez retrouver ces horloges au restaurant Un air de famille, du mardi au samedi, pendant le repas de midi.
Voilà, et est-ce que vous avez un site internet où on peut découvrir votre travail ?
Alors non, j'ai pas de site internet pour les horloges encore, j'ai un site internet pour les jeux d'échecs, mais pas encore pour les horloges, c'est un projet en cours, pourquoi pas, oui, je pense que je vais le monter d'ici quelques temps.
Et pour ce jeu d'échecs, donc ce site, vous avez une adresse en particulier, on doit marquer quoi pour le trouver ?
L'adresse échec-alain-ball.fr, et vous trouverez mon site.
Eh bien, monsieur Alain Ball, merci d'être venu nous voir pour votre exposition, toujours à un air de famille, et qui s'appelle « De temps va pas ». Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Au merci, bonne soirée à vous aussi, et à tous les auditeurs.
Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'attalent de ses gueules. à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule, avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.